بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. La fois dernière, on s'est arrêté au début de la bataille de Uhud. Donc, comme vous le savez, c'est la deuxième grande bataille de l'islam. Et on a vu les dernières fois, tout d'abord, le rôle que les femmes idolâtres jouent dans cette guerre, et en particulier dans l'armée idolâtre. On a, comme on avait dit, on a un groupe de 19 femmes qui se sont déplacées, et c'est en particulier les épouses et les filles et sœurs des notables et des chefs de la Mecque qui sont là, entre autres, pour galvaniser, à inciter les hommes à se battre sans reculer. Et elles font des poèmes, elles entonnent des poèmes qui ont pour objectif d'inciter au combat. On a vu également que le chef de l'armée, Abu Sufyan, va tenter plusieurs choses pour semer le trouble dans l'armée musulmane, mais aussi pour essayer de dissuader l'armée musulmane, ou en tout cas une partie de l'armée musulmane, de combattre dans la bataille de Ghazwat Uhud, la bataille de Uhud. Et au minimum, il va essayer de semer la division dans l'armée. Et on avait dit que ce qu'il va utiliser, c'est par exemple, il va essayer de s'en prendre aux Ansar. Ansar, les Ansar, c'est qui? C'est les compagnons de Medina. Et Abu Sufyan, il vient et il s'adresse aux Ansar et il dit « Ya ma'ashar al-Awsi wal-Khazraj ». Et on en avait dit que les tribus, les deux principales tribus qui composaient les habitants de Médine, donc les Ansar, les compagnons de Médine, ce sont la tribu des Aous et la tribu des Khazraj. Donc il s'adresse à eux, il vient devant l'armée musulmane et il dit « Ô vous, les Aous, et vous, les Khazraj ». « Da'ouna wa abna ammina »« Fananzarifa ankum » فلا حاجة لنا في قتالكم. Laissez-nous et notre cousin, en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-nous avec notre cousin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous vous laisserons. Nous nous en irons, nous ne vous attaquerons pas et nous n'attaquerons pas votre ville. Nous n'avons que faire de vous combattre. Ce n'est pas vous qui nous intéressez. Ce qui nous intéresse, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et donc, Abu Sufyan, il va tenter autrement. Il va envoyer un homme. C'est un munafiq, un hypocrite. Qui? Abu Amir al-Fasiq. Il était surnommé dans la Jahiliya Abu Amir al-Rahib et le professeur sallam il l'a surnommé Abu Amir al-Fasiq. Et dès l'arrivée du prophète Mohammed sallam et en particulier au lendemain de la bataille de Badr, il va quitter la ville de Médine, Abu Amr al-Fasiq, pour se joindre aux gens de la Mecque, aux mouchriquines, aux idolâtres, et pour leur dire « Je suis de votre côté. » Et moi, je suis un des chefs de la ville de Médine. Donc, organisez la vengeance de Badr, et quand je me retrouverai devant les miens, je réussirai à les convaincre de faire demi-tour. Et donc Abou Soufiane, il va lui dire, tu t'étais engagé à convaincre les tiens, les gens de Médine, de faire demi-tour et de ne pas combattre. Et donc il va se présenter à Abou Amr al-Fasiq et va dire, oh vous les gens, la tribu des Haous, parce que lui c'était un chef de la tribu des Haous, oh vous les Haous, c'est moi, Abou Amr al-Rahib. Ils vont lui répondre, les Ansar, les musulmans, les compagnons du prophète Mohammed sallam de la tribu des Haous, ils vont lui répondre, « Bal anta Abu Amr al-Fasiq. » Tu n'es pas Abu Amr al-Rahib, toi. Tu es Abu Amr al-Fasiq, le corrompu. Et donc là, il n'y a plus besoin de parler encore, de dire quoi que ce soit. Il a compris que la température, elle était mauvaise pour lui, qu'il n'arriverait pas à les convaincre. Il n'arriverait pas à les dissuader de combattre. Et donc, il revient et il dit à Abu Sufyan, « Laqad asaba qawmi min ba'di shar. » Il est arrivé à ma tribu, à mon peuple, après que je sois parti, un mal. Ils ont été atteints par un mal. Non, parce qu'ils ne m'écoutent plus. Non. À la kulli hal, on va à présent s'intéresser. On a dit que les deux armées se font face. Que jusqu'à présent, il y a eu une façon de montrer ses muscles, de troubler, d'essayer de bluffer, entre guillemets, même du côté musulman. On montre sa force. Hein, lorsque Abu Dujan, radiyallahu anhu, il a pris l'épée que le professeur Hassan donnait en disant « Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqi ». Il faut vous imaginer que quand le professeur Hassan fait ça, il ne s'adresse pas qu'aux compagnons. Derrière lui, face à l'armée musulmane, il y a l'armée des idolâtres et il voit cette action, cette scène où le professeur Hassan prend une épée et il la montre à ses hommes, à son armée, et il leur dit « Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqi ». Qui va prendre cette épée, mais avec le droit que cette épée aura sur lui, en respectant le droit que cette épée aura sur lui. C'est aussi pour perturber les idolâtres. Malgré le fait que les musulmans sont moins nombreux, ils sont prêts à combattre. Et le professeur Hassan offre une épée pour montrer la motivation. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tous les compagnons veulent cette épée. Ana ya Rasulallah, moi au messager d'Allah, le professeur Hassan se détourne de lui, Donc mettez-vous aussi à la place, parce que nous on avait parlé de ce que le professeur Hassan a fait pour les musulmans, et l'effet que ça faisait dans l'armée musulmane, mais l'effet que ça fait dans le camp d'en face, où il voit que ces gens-là, tout le monde veut cette épée. Et le professeur Hassan, non, pas toi, jusqu'à ce que ce soit Abu Dujana radiyallahu anhu qui dit, أنا آخذ هذا السيف فما حقه. Moi je prends cette épée, mais quel est son droit? Et le professeur Hassan il dit que tu l'utilises et que tu combattes avec et que tu n'aies aucune pitié pour personne parmi ceux qui font la guerre à Allah et son messager. Non. Et qu'avec cette épée tu ne touches aucun des musulmans. Aïwa. Et donc le professeur Hassan il va lui donner. Il va dire, moi je prends cette épée avec son droit. Et il va se pavaner hein, de manière orgueilleuse devant l'armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Inna Allah yubridu mithla hadhihi al-mishya illa fi mithli hadha al-mawqif. Allah déteste ce genre de démarche, sauf dans ce genre de situation. Naam. Donc nous, on est à cette étape-là où ce sont plutôt des démonstrations de force qui ont eu lieu. Il y a même eu un duel. Enfin, on avait dit que ce duel, il n'y a pas de version qui l'a authentifié. Mais on avait parlé d'un duel, c'était le duel entre Talhat ibn Uthman et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. À présent, on va parler de la bataille. Les deux armées vont s'attaquer l'une à l'autre. Mais il y a quelque chose qui, entre guillemets, après cette étape, qui va déclencher la bataille. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce qui va déclencher la bataille? Qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? Non. Il y a plusieurs choses qui vont mettre le feu aux poudres. Et ça va principalement se dérouler autour de ce qu'on va appeler les duels. Les duels. Ce sont les duels, il va avoir un duel par-ci, un duel par-là, qui vont se multiplier et qui va avoir comme résultat que les deux armées vont s'affronter. Quand je vous dis qu'il va y avoir plusieurs duels, en disant ça, par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de dire que si je donne cette conclusion, c'est à partir du moment où on s'attache à toutes les versions, qu'elles soient authentiques ou faibles. Si on prend en compte et en considération toutes les versions qui parlent de cette étape, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs duels. Mais si on veut s'attacher scrupuleusement, rigoureusement, uniquement aux versions qui ont été authentifiées, on n'a qu'une version authentique qui nous parle d'un duel, celui qu'on va voir aujourd'hui. Quant à tous les autres, ceux qui vont suivre, qui vont aussi mettre le feu aux poudres, ça, ce sont des versions qui n'ont pas été authentifiées. Commençons donc par celle qui a été authentifiée. Quand je dis qu'elle a été authentifiée, elle est dans Sahih al-Bukhari, dans l'authentique de al-Bukhari. On nous dit « An Ja'far ibn Umayyat al-Damri ». Cet homme, c'est un tabi'i. Ja'far ibn Amr ibn Umayyat al-Damri, c'est un tabi'i donc qui vit après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez dire, mais quel rapport avec la bataille de Uhud? Parce que justement, on parle de ça, la chaîne de transmission. C'est lui qui nous rapporte ce récit. Donc, il faut qu'on explique les choses. Ja'far ibn Amr ibn Umayyad Damari, il part en expédition avec un compagnon de voyage qui s'appelle, lui aussi c'est un tabi'i, qui s'appelle Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar. Donc Ja'far ibn Amr ibn Umayyad Damri, il part en expédition, selon certaines versions, ils sont partis pour une guerre contre l'Empire byzantin, avec son compagnon de voyage Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar, et ils reviennent tous les deux de ce voyage. Et ils passent par Al-Sham, la Syrie actuelle. Et ils font une pause dans une ville qui existe encore aujourd'hui, qui est meurtrie par la guerre civile actuelle en Syrie. Cette ville, c'est la ville de Homs. Ils s'arrêtent dans cette ville, et Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar dit à son compagnon de voyage: Hal laka fi wahshi ibn Harb fa nas'aluhu an qatl Hamzata ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Que penses-tu d'aller rendre visite à Wahshi ibn Harb? Wahshi ibn Harb, c'est celui qui a été payé par Tu'aymah ibn Adi pour tuer pendant la bataille de Uhud Hamza ibn Abd al-Muttalib. Donc nous, on n'a pas encore vu en détail la mort et l'assassinat de Hamza ibn Abd al-Muttalib, on va le voir. Mais lui, il nous dit ça. Il dit à son compagnon de voyage, donc Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar, il dit à Ja'far ibn Amr ibn Umayyad Damri: que penses-tu si nous allions rendre visite à Wahshi ibn Harb et que nous les questionnons à propos de la mort de Hamza? Parce que c'est Wahshi qui l'a tué. Il n'était pas encore musulman. Et ensuite, par la suite, il s'est converti à l'islam. Pour avoir les détails. Donc on a affaire à deux tabi'i qui passent par la ville de Homs. Et la chose à laquelle pense Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar, c'est y a un homme qui a vécu ces événements. Ce n'est pas juste qu'il les a vécus, il a participé, il a été auteur d'un événement important dans cette bataille, la mort de Hamza, radiallahu anhu, et il est vivant, il vit dans cette ville, la ville de Homs. Il ne faut pas rater cette occasion, il faut aller le questionner. Ils connaissent tous l'histoire, mais ils veulent les détails, ils veulent entendre les détails de cette histoire de la bouche de celui qui l'a vécu et qui a été l'auteur de cette action. Et donc il demande, son compagnon lui dit « Ok, on y va ». Donc il demande aux gens, aux habitants de la ville de Homs, où habite Wahshi ibn Harb, radiyallahu anhu, puisque à ce moment-là, il est converti à l'islam. Non. Et donc dans cette version qui est authentifiée par le Bukhari, on nous dit huwa dhaka fi qasrihi. Donc il demande à un habitant qui leur dit huwa dhaka fi qasrihi ka'annahu hazin. Il est dans son palais, dans sa demeure, et c'est comme s'il était triste, yani, comme s'il était pensif. Non. Il dit فجئنا فوقفنا عليه بيسير. Nous sommes venus et nous sommes arrêtés juste à côté de lui, à quelques pas de lui. فوقفنا عليه بيسير. فسلمنا عليه فرد السلام. Nous l'avons salué, nous lui avons dit salam alaykoum et il nous a répondu wa alaykoum salam. سلمنا عليه فرد السلام. Nous l'avons salué, il nous a répondu. وعبيدullah ibn Adi ibn Khiyar معتجر بعمامته لا يرى منه إلا عيناه ورجلاه. Et عبيدullah ibn Adi ibn Khiyar, qui a eu l'idée d'aller voir Wahshi ibn Harb, il était enturbané, donc il avait son turban. Et mu'tajirun bi'imamatihi, ça veut dire quoi mu'tajirun? Ça veut dire il a mis son turban, mais il l'utilise aussi, son turban, il ne l'a pas fait passer par derrière, hein, pour le faire pendre derrière, non. Il a utilisé le tissu qui reste quand on enroule le turban pour cacher son visage et ne laisser apparaître que ses deux yeux. Et il dit on ne voyait de lui que les deux yeux et les deux pieds. Il était à pieds nus. On ne voyait que ses deux yeux et ses deux pieds. La yura minhu illa aynahu wa rijlahu. Et donc il s'approche de Wahshi ibn Harb. Il faut imaginer qu'Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar est vêtu ainsi. On ne voit que ses yeux et que ses pieds. Et il va dire, Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar qui est caché sous son turban, il va dire Ata'arifuni. Il va s'adresser à Wahshi ibn Harb, il va lui dire « Est-ce que tu me connais ? Est-ce que tu me reconnais ?» فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَحْشِي ثُمَّ قَالَ. Et Wahshi va le regarder, il va l'observer. Même s'il le connaît, comment il va le reconnaître ? Il est caché derrière le turban. Donc il va le regarder et il va dire لَا وَاللَّهِ. Non, je ne te reconnais pas. Par Allah, je ne te connais pas. Illa anni. Sauf que. C'est-à-dire, il n'a pas la certitude de savoir c'est qui, mais il a sa petite idée. Il va dire Illa anni. A'lamu anna Adi ibn al-Khayyar. Tazawwaj imra'atan. Yuqalu laha. Umm Qital. Bintu Abi al-Ays. Je ne te reconnais pas, sauf que je me rappelle qu'il y a longtemps, un homme qui s'appelait Adi ibn al-Khiyar. Il parle de qui ? Il parle du père de Hadha qui est enturbané. Lui, il s'appelle comment ? Il s'appelle Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar. Ubaydullah, fils de Adi ibn al-Khiyar. Et donc, lui, il lui dit, toi, je ne sais pas qui t'es. Mais je me rappelle qu'il y a très longtemps, un homme qui s'appelait Adi ibn al-Khiyar, donc c'est son père. تزوج امرأة. Il s'était marié avec une femme qui se dénommait, qui s'appelait Umm Qital ibn Abi al-Ays. qui s'appelait Umm Qital ibn Abi al-Ays. Umm Qital Afwan bint Abi al-Ays. Elle s'appelait Umm Qital bint Abi al-Ays. Et donc, il parle du mariage de ses parents. Et vous allez comprendre pourquoi il fait le lien entre lui et son père. Et donc il va dire فولدت له غلاما. Et elle lui a mis au monde, quand elle s'est mariée cette femme, Umm Qital bint Abi al-Ays, elle va mettre au monde, dans son union avec son mari, Adi ibn al-Khiyar, un enfant. وكنت استرضع له. Et j'étais chargé, c'est un esclave à l'époque, Wahsh ibn Harb, de lui trouver une nourrice qui allait l'allaiter. وكنت استرضع له. Et il explique qu'il devait prendre cet enfant et qu'à un moment, donc comment on faisait pour trouver une nourrice? Donc ils allaient dans une campagne, dans une tribu, où il y avait des femmes qui proposaient leur service, ou alors c'était elles qui venaient à la Mecque. Et quand on voulait prendre une nourrice, on faisait, entre guillemets, un mini-test. Tiens, prends-le et donne-lui de ton sein. Déjà, prends-le pour voir s'il va accepter que tu le berces toi. Et on va voir comment ça se passe quand tu lui donnes le sein. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que le bébé ne pleure pas? Est-ce que... Il t'accepte, Yarni. Et donc il dit, quand je l'ai donné à une nourrice pour faire un test, et ensuite je l'ai récupéré, ce bébé, il m'a donné un coup de pied. Qu'est-ce qu'il a fait, le bébé? Il lui a donné un coup de pied à Wahshi ibn Harb. Et il dit, et j'ai donc observé ses pieds. Et c'est les mêmes pieds que je vois aujourd'hui, sauf qu'ils sont plus grands. Ajib. Et donc il dit, toi je ne te reconnais pas, mais en voyant tes pieds, parce qu'il voit juste ses yeux et ses pieds, tes pieds me rappellent les pieds de ce bébé d'il y a très longtemps. Ajib, yani. Ce qu'on appelle le firasa. Subhanallah. Il voit les pieds, il dit, ça c'est... Et là il va enlever son turban, il va dire, je suis le fils de Adi ibn Khiyar, c'est moi Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar. Quand il était bébé, il a eu à le porter quelque temps et c'est resté dans sa mémoire, subhanallah. Et il a fait le lien en reconnaissant les pieds alors que les pieds étaient adultes. Et ça fait rappeler l'histoire de Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu. Usama ibn Zayd ibn Haritha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, il avait un fils adoptif. Il avait adopté un enfant. C'était Zayd ibn Haritha qui va devenir un de ses meilleurs compagnons, radiyallahu anhu. C'était d'abord son esclave et ensuite il va l'affranchir, le libérer et il va en faire son fils adoptif. À un tel point que les gens l'appelaient Zayd ibn Muhammad dans le Jahiliyyah. Zayd, fils de Muhammad. Sauf que Zayd ibn Haritha, quand l'islam va arriver, l'islam va expliquer aux gens qu'ils ne peuvent pas, même s'ils sont adoptés, on ne peut pas dire un tel fils de son père adoptif. Non, ce n'est pas son vrai père. C'est son père adoptif, donc on ne doit pas dire qu'il est le fils d'un tel. Non. Donc les gens vont le rappeler avec son vrai nom, Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Le prophète Hassan va marier Zayd ibn Haritha à Umm Ayman, la première à avoir pris le prophète Hassan dans les bras quand il est né. Parmi les femmes qui ont aidé sa mère, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina bint Wahb, à mettre au monde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette femme, cette esclave, Umm Ayman. Son vrai nom c'était Baraka, son surnom c'était Umm Ayman. Et elle, c'est la première qui va prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, à Umm Ayman. Et de cette union, ils vont avoir un enfant. Cet enfant, c'est qui? C'est le compagnon Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu. Quel rapport entre les pieds dont on parle tout à l'heure et Usama ibn Zayd? Usama ibn Zayd, quand il va naître, il va être noir. Alors que son père Zayd ibn Haritha, il est blanc. Et comme les idolâtres, les hypocrites voulaient faire du tort au prophète, quand il voulait faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en prenait directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'en prenait aussi à ses proches. Et donc, ils vont commencer à accuser Zayd ibn Haritha, ou plutôt Ummu Ayman, en disant, c'est pas le fils de Zayd ibn Haritha. Parce que lui, il est blanc, et son fils, il est noir. Donc, c'est pas son vrai fils. Il y a quelque chose. Il y a quoi ? Al-Muhim. Il y a quelque chose. Et donc, il faisait répandre comme ça des calomnies et des rumeurs, des fausses rumeurs. Le professeur Hassim savait que c'était faux. Mais malgré tout, certains faibles de cœur pouvaient y croire. Et ça faisait du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme de la tribu des Bani Moudlij passe par un endroit qui était occupé par Osama ibn Zayd et son père Zayd ibn Haritha qui était en train de faire une sieste. Et ils avaient pris tous les deux une couverture. Donc il y a Zayd ibn Haritha qui fait une sieste avec son petit garçon, Osama ibn Zayd. Ils sont en train de dormir. Et ils se sont couverts d'un drap. Mais ce drap recouvre le haut de leur corps et pas les pieds. Donc on voit deux paires de pieds. Une paire de pieds adultes blancs et une paire de petits pieds noirs côte à côte. Ils sont en train de dormir. Et cet homme des Bani Moudlij, vous vous rappelez la tribu des Bani Moudlij, le chef des Bani Moudlij, c'est qui ? C'est Suraqa ibn Malik, radiyallahu anhu. Ceux qui étaient des spécialistes pour retrouver les fuyards dans le désert ou ceux qui sont perdus dans le désert ou les gens qui cherchent à ce qu'on ne les trouve pas, ils pouvaient les retrouver. C'était leur compétence. Tout comme ils avaient comme compétence ce qu'on appelait cette science du profilage, entre guillemets, en regardant les gens, ils avaient cette firasa, cette capacité de dire un tel, par rapport à son physique, il est avare ou il est généreux ou il est ceci ou il est cela. Et c'est une science qui s'étudiait même après l'islam. On sait que l'imam Shafi'i rahimahullah l'avait étudié au Yémen jusqu'à ce que finalement cette science tombe dans les oubliettes ou en tout cas elle évolue d'une manière différente. Et donc cet homme des Bani Moudlij, il passe à côté de ces deux paires de pierres à foin et il dit sans que personne lui ait rien demandé. Il regarde les deux pieds, donc il est étonné de voir des petits pieds noirs et des petits pieds blancs, côte à côte. Ça attire son observation et son attention. Il regarde, et il est encore plus étonné quand il regarde, parce que de par la connaissance qu'il a, hein, le profilage, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Inna hadhihi al-aqdam ba'dhuha min ba'd ». Ses pieds sont liés et ils viennent les uns des autres. Et c'est justement, il est émerveillé devant ça, parce que lui, c'est noir, et là c'est blanc. Et pourtant, pour lui, il n'y a pas de doute, l'un vient de l'autre. Ils sont liés. Ce sont les mêmes pieds, yani. Et ça s'est répandu. Qu'un homme des Bani Moudlij. Tout le monde croyait en cette science, et surtout, il croyait aux personnes qui avaient cette science et qui en avaient la compétence, en particulier qui ? La tribu des Bani Moudlij. Et donc le professeur Hassan va se réjouir à entendre ça et il va rentrer chez son épouse Aïcha radiallahu anha, il va lui l'informer. C'est comme ça qu'on est au courant de cette histoire. Il va l'informer et il sera réjoui. Il va dire, un homme des Bani Moudlij est passé et il va faire taire les calomnies parce qu'il a vu les pieds sans que personne ne lui demande. On ne l'a pas payé pour ça, il est juste passé par là et quand il a vu les pieds, il a dit « Inna hadhihi al-aqdam ba'dhuha min ba'd ». Ses pieds viennent les uns des autres. Ils sont liés les uns aux autres. Non. Vous vous rappelez quand on a fait la hijra, l'immigration. Les idolâtres ont payé des gens des Bani Moudlij pour retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris la route par le sud, il est parti par le sud de la Mecque alors que lui il voulait aller où ? À Médine. Mais pour brouiller les pistes, il a pris le sud. Et il avait demandé au fils de Abu Bakr, Abdurrahman, de venir chaque soir pour lui donner les informations de la Mecque.
par où on le cherchait, alors qu'il était réfugié dans une grotte au sud de la Mecque, la grotte de Thawr. Et aussi, il avait demandé à un berger, il avait payé un berger pour faire quoi ? Pour ramener ses troupeaux de chameaux derrière le chemin par lequel était passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les faire marcher par là pour effacer les traces que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr avaient laissées. Et aussi, il lui avait demandé, il avait payé ce berger, pourquoi ? Pour faire passer ses chameaux derrière le fils d'Abou Bakr qui avait la mission de venir chaque nuit ramener les informations. Vous imaginez toutes les précautions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prises ? Et pour effacer ses traces ? Et les traces de ses informateurs ? Et malgré tout, l'homme d'Ebani Moudlij, qui a été payé par les idolâtres, il a ramené Abu Jahl et ses comparses jusqu'à la montagne où il y a la grotte de Thawr. Alors qu'eux, ils lui disaient, c'est pas possible, on est sûr qu'il se dirige vers le nord, vers Médine, pourquoi tu nous ramènes vers le sud ? Laissez-moi faire, je connais mon travail. C'est, de père en fils, on fait ça. Même si ça vous semble bizarre, moi je sais qu'il est passé par ici. Je suis sa trace. Et ensuite, pour lui, les traces, elles s'arrêtaient au niveau de cette montagne, et il avait raison. Il était dans cette montagne, dans la grotte de Thawr. Et il va leur dire, je ne sais pas où il est exactement, mais il est quelque part dans cette montagne. Ils ne vont pas avoir trop confiance, mais en même temps, ils vont se dire, c'est quelqu'un qui... Ils sont connus pour ça. Donc, ils vont chercher dans cette montagne, ils ne vont rien trouver, à tel point qu'ils vont même arriver jusqu'au pied de la grotte, mais ils ne vont pas trouver le professeur Salman à l'intérieur. En tout cas, ils ne vont pas le voir. Alors, certes, il y a les versions de la toile d'araignée, les versions des oiseaux, etc., avec le nid. C'est des versions, comme on l'avait dit, qui n'étaient pas authentifiées. En tout cas, celle des oiseaux n'est pas authentifiée. Celle de la toile d'araignée, certains l'ont authentifiée, certains l'ont affaiblie. Mais en tous les cas, ce que le Coran dit, c'est qu'ils ne l'ont pas vu. Aïwa. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Ils vont avoir l'impression qu'ils ont perdu du temps en cherchant vers le sud, donc ils vont chercher vers le nord et ils vont mettre la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rançon. Ils vont mettre sa tête à prix. Et quand l'information de la rançon va arriver dans la tribu des Bani Moudlij, qui est bien au nord de la Mecque, tous les Bani Moudlij vont se mettre à rechercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez ? Là, c'est plus un seul profiler. C'est des dizaines de profilers qui recherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout, Allah azza wa jalla va protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le chef de cette tribu qui va retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Suraqa ibn Malik. Comment il va le retrouver ? C'est lorsqu'un homme, un voyageur, va passer par les Bani Moudlij et il va leur dire, parce que les Bani Moudlij sont en train de chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de deux hommes, Abu Bakr, son compagnon, radiallahu anhu, et leur guide, Abdullah ibn Urayqit. Et il va dire, je ne sais pas si c'est eux que vous cherchez, mais j'ai vu deux hommes accompagnés d'un guide qui marchait par là. Et tous les Bani Boudlij vont vouloir se diriger vers cet endroit, et leur chef, Suraq ibn Malik, qui veut la rançon pour lui tout seul, va dire, non, vous n'allez pas par là. Je sais qui sont ces trois hommes-là. Il va leur mentir. C'est un tel. Il m'avait prévenu qu'ils allaient partir en voyage et qu'ils allaient prendre ce chemin. Donc vous allez perdre votre temps. Cherchez ailleurs. Et quand il va voir que les autres sont partis, lui, il va prendre en cachette son cheval et il va aller vers cette direction. Et il va en effet les retrouver. Donc il va prendre sa lance pour essayer de tirer. Et il vise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on lui a dit, mort ou vif, tu auras la même rançon. Mohammed, il faut le ramener. Il y en a les idolâtres, là, ils avaient perdu trop de temps. Ils avaient peur qu'il s'échappe. Au début, ils le voulaient vivant. Et finalement, ils vont dire mort ou vif. Peu importe. En tout cas, il ne doit pas nous échapper. Donc, Suraq ibn Malik, à chaque fois qu'il tentera de tirer avec la lance, son cheval trébuchera, tombera et il le fera tomber. Et donc, il va prendre peur. Et à un moment, il va même prendre ses flèches de divination. Vous savez, les fameuses flèches de superstition où les idolâtres, ils prenaient les flèches et il écrit des choses dessus. Il écrit oui. Dans une autre flèche, il était écrit c'est des petits bâtons. Non. Et une autre, je ne sais pas. Débrouille-toi. Et il tirait au sort. La flèche qu'il allait prendre au hasard, c'était les divinités, soi-disant dans leur croyance, qui leur répondaient. S'il est écrit dessus oui, ça veut dire à sa question qu'il posait, c'est oui. Et donc lui, il va faire ça, il va prendre les flèches de divination et il va dire si il y a un bien, et donc il s'adresse à des fausses divinités, s'il y a un bien, dans le fait que je pourchasse cet homme, dis-le-moi. Donc il va jeter ses flèches et il prend au hasard, ça tombe sur quoi ? Sur non. Normalement, c'est sa religion. C'est... Nous, on n'y croit pas à ça. C'est lui qui croit à ça. Donc normalement, selon sa religion, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire demi-tour. Il va dire non. Il va réessayer. La rançon, elle est haute. Et donc il va réessayer de tirer sur le prophète Hassan et encore une fois, le cheval, il tombera. Et il va réessayer avec ses flèches de divination de tirer au sort et à chaque fois, il tombera sur moi. Agis bien. Et à ce moment-là, il va être terrifié, terrorisé. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui protège le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne comprend pas ce que c'est, parce qu'il sait que, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est contre ses divinités. Donc comment ça se fait que ces divinités refusent ? Nous, on sait que c'est des fausses divinités. Donc dans sa tête, il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose de contradictoire. Comment ça se fait que ces divinités, elles refusent qu'il le pourchasse ? Et en même temps, c'est un homme qui est hostile à ces divinités. Pourquoi ces divinités, elles ne voudraient pas ? Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'arrive pas à faire la connexion dans sa tête. Et donc il va être terrorisé, et il va venir voir le professeur Hassan, il va dire « Je sais qu'il y a quelque chose, une force qui te protège. Donc, je demande ta protection. » Il vient pour le capturer, et finalement il demande sa protection. Parce qu'il se sent maintenant en danger. Le professeur Hassan va lui dire « Je jure par Allah que je te donne ma protection. » Le professeur Hassan va dire « J'ai un service à te demander. » Il va lui dire « Je ne rendrai aucun service tant que tu n'écris pas cette... Je veux que tu me l'écrives. » Le professeur Hassan va appeler le guide et il va dire « Écris-lui dans un papier, dans un papyrus, de la part de Mohammed le messager d'Allah, à Suraqa ibn Malik, chef des Bani Mudlij, je donne ma parole que moi, le messager d'Allah, je le protège. » Il va prendre ce message, et il va le cacher. Il ne le montrera qu'à la libération de la Mecque, parce qu'il va cacher son islam. Et à la libération de la Mecque, quand la tribu des Bani Mudlij sera menacée, lui va sortir le « Moi, je suis musulman. Arrête de mentir. Bah, regardez le papier. » Et il a le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa bague, avec la promesse de protection. Ajib. Non. « Ala kulli hal » tout ça, c'était pour dire que les Bani Mudlij, ils avaient cette science de trouver les gens qui fuyaient, etc. Donc, ala kulli hal, je reviens, parce que j'ai ouvert parenthèse sur parenthèse, je reviens à ce qu'on disait sur Wahshi ibn Harb, qui, bien après la mort du prophète, raconte que, donc il reconnaît l'homme qui est venu le voir, Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar. Il le reconnaît, lui dit, en reconnaissant quoi ? En reconnaissant les pieds du petit bébé qu'il avait pris quand il venait de naître. Et donc Ubaydullah ibn al-Khiyar va lui dire, « Ala tukhbiruna bi qatli Hamza ?» Ne nous informeras-tu pas à propos de la mort de Hamza ? C'est lui qui l'a tué, c'est Wahshi. Il va lui dire, « Na'am. » D'accord. Je vais vous raconter. فيقول نعم إن حمزة رضي الله عنه قتل طعيمة بن عدي. Sache, qui s'adresse Wahshi à Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar, il va lui dire, sache que Hamza, le compagnon Hamza, avait tué à Badr طعيمة Ibn Adi. Il avait tué Tu'aima ibn Adi. C'était un des chefs idolâtres. Et donc la famille de Tu'aima ibn Adi, ils sont venus, et en particulier son fils, Wahshi ibn Harb, il va dire son fils, qui était mon maître, Jubair ibn Tu'aima ibn Adi, va venir me voir et il va me dire, si à Uhud, tu tues Hamza, je te donne ta liberté. Si tu tues Hamza pour venger mon père, qui a été tué à Badr, tu as la liberté, tu es libre. Et donc, Wahshi ibn Harb, il va dire, فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنَ. Et lorsque les gens, on parle des gens de la Mecque, font sortir l'année de عَيْنَيْنَ. C'est quoi عَيْنَيْنَ ? C'est le nom d'une montagne. Le nom d'une montagne, une petite montagne qui n'est pas loin de Uhud, et c'est là que les idolâtres vont se positionner. Et donc lui, il reprend le terme qui était utilisé par les gens de la Mecque pour parler de cette année-là. Cette année, elle va être surnommée « Aam Aynayn », l'année de Aynayn. Sous-entendu, l'année de la bataille de Aynayn. Les gens de la Mecque l'appelaient Aynayn parce que l'armée de la Mecque s'était positionnée à Aynayn. Et ça, c'est les noms qu'on donne, les surnoms qu'on donne aux années. Quand il y a un événement qui est plus fort que d'autres, plus important que d'autres, on surnomme cette année l'année de telle chose. Non. L'année de la guerre, l'année de ceci, l'année de... Ah. Même chez nos parents. Nos parents qui n'ont pas les vraies dates de naissance, qui sont nés dans les années 30, 40, on a ça. Ah, moi, je me souviens que ma grand-mère, quand on lui demandait sur l'année de naissance de notre père, elle nous disait, il est né, elle dit, moi je sais exactement quand il est né. Donc nous, on s'attend à entendre une année précise. Elle dit, il est né 2 années après l'année de la famine. Va retrouver, c'est quand l'année de la famine. Non. Après, bon, il y en a d'autres qui précisent c'est quand l'année, cette fameuse année de la famine. Ou alors c'est l'année où, de l'Istiqlal, l'année de l'indépendance. Ou l'année où les Espagnols sont entrés. Dans le nord du Maroc, c'est les Espagnols qui ont colonisé le Naam. Et donc les gens, ils donnaient des noms aux années en fonction des événements. Par exemple, dans le nord du Maroc, lorsqu'il y a eu la guerre du Rif et que pendant 5 ans, le Rif a été indépendant, ce qui va déclencher cette guerre, cette résistance contre les Espagnols, et ils vont rejeter les Espagnols, c'est un événement, c'est le fait que le chef des Rifains, Mohamed ben Abdelkrim al-Khattabi, il va réunir les chefs de tribu, Rifaine, et il va leur faire prêter serment d'allégeance. Donc ils vont aller dans une mosquée, ils vont prendre le mushaf, le Coran, et ils vont jurer par Allah qu'ils ne se feront plus la guerre, parce que les tribus se faisaient la guerre entre eux. Et donc toutes les tribus du Nord se sont jurées qu'ils ne se feront plus la guerre et qu'ils concentreront toute la haine qu'ils avaient entre eux contre les Espagnols. Et cette année, on l'appelle « Am Smaha », c'est-à-dire l'année du pardon, parce que toutes les tribus se sont pardonnées les uns les autres. Donc cette habitude, on le prend ici de Wahshi ibn Harb, elle dure encore jusqu'à il y a quelques décennies. En fonction des événements, on dit « Am ceci, am cela ». Donc, Wahshi ibn Harb, il appelle ici cette année-là « Am Aynayn ». « Am Aynayn ». Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où ils sont positionnés. Naam. Et donc, nous, vous allez me dire, mais nous, on ne devait pas parler de la mort de Hamza. Quel rapport tout ça ? Parce que justement, juste avant de parler de la mort de Hamza, ça, on viendra plus tard sur la mort de Hamza. Il précise une chose, c'est qu'il va y avoir un duel. Et c'est ce duel qui va mettre le feu aux poudres. Il dit, Hamza va arriver, et il y a un homme, Siba' ibn Abd al-Uzza. C'est un homme idolâtre qui va venir et qui va défier les musulmans et qui va dire, qui veut un duel ? Qui me prend dans un tête-à-tête ? Siba' ibn Abd al-Uzza. C'était un homme féroce. On raconte de lui que c'était un homme féroce. Féroce. Et Hamza ibn Abd al-Muttalib, il nous dit, Wahshi ibn Harb, qui a vécu cet événement, il l'a vu de ses propres yeux, il va dire, et Hamza ibn Abd al-Muttalib va d'abord l'insulter. Il nous cite, c'est une version authentifiée de Al-Bukhari, l'insulte. Il va dire, « Ya Ibn Ummi Ammar, muqatti'at al-budur. » Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, ça va être difficile pour moi de le traduire. Il y en a, c'est une insulte très dure. Et pour vous faire comprendre, c'est quoi de quoi il l'insulte ? Il l'insulte par le métier qu'avait sa mère. Sa mère, c'était une exciseuse. circoncision. Vous savez ce que c'est? C'est la circoncision pour les femmes. Et donc sa mère était l'exciseuse de la Mecque. C'était elle qui pratiquait l'excision. Et donc il va lui dire de manière obscène et vulgaire, il va lui rappeler, il est le fils de qui? Tu es le fils de celle qui faisait ceci, cela, et de manière vulgaire. Et toi, tu oses nous défier, Yann. Alors que tu es le fils d'une telle, rappelle-toi de qui? Donc déjà, il l'humilie. Et ensuite, Hamza ibn Abdel Muttalib le prend. Et Wahshi ibn Harb, il dit, « Faja'a fa'asbaha ka'amsi al-dhahib. » Ajib, Yann, cette expression. Il dit, « Hamza ibn Abdel Muttalib, ja'a fa'asbaha Siba' ibn Abdel Uzza ka'amsi al-dhahib. » Il est venu, Hamza, et Siba' ibn Abdel Uzza, il devient comme hier qui est passé. Il est devenu comme hier. C'est-à-dire en une fraction de seconde, Hamza, il a levé son épée et l'autre n'existait plus. Il n'a même pas eu le temps de se défendre. Il est venu, il défait en duel. Vous dire qui était Hamza, radiyallahu anhu. Les gens de la Mecque le détestaient, ils ne le détestaient pas pour rien. Il y en a Badr. La plupart de ceux qui sont morts, quand vous prenez le livre de l'historien Ibn Hisham, il vous fait la liste des idolâtres qui sont morts, et deux tiers de ces des idolâtres, il dit, tué par Hamza, tué par Hamza, tué par Hamza. Et le tiers des autres, ils ont été tués par d'autres compagnons. Naam. Et donc ensuite, il dit, فَكَمَنْتُ لِحَمْزَ. Wahshi ibn Harb, ensuite, il dit, et je me suis caché pour observer Hamza, à quel moment je pourrais le tuer. Et ça, c'est une autre histoire, la mort de Hamza, on la racontera plus tard. Nous, on avait ramené ce hadith, surtout pour cette phrase et ce duel, qui va mettre le feu aux poudres. Comment? Ça, c'est ce qu'on verra, bi'idhnillah et tabaraka wa ta'ala, la fois prochaine, parce qu'il va encore y avoir une série d'autres duels, et on les verra la semaine prochaine, bi'idhnillah et tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.